Radio Montmartre.
Bienvenue à la deuxième de Radio Montmartre. Radio Montmartre est un cycle d'émissions réalisé en direct depuis différents ateliers d'artistes de la cité Montmartre aux artistes dans le 18e arrondissement de Paris. Préparé et présenté par Antonio Contador, l'émission est produite et réalisée par Du. Aux commandes ce soir, Samson Staples. Le jingle est le résultat d'une collaboration avec les enfants de l'association Montmartre. On les remercie chaleureusement pour ça. Radio Montmartre 2, donc, qui ce soir fait place au questionnement sur la complexité du démarquage entre espace domestique et espace scénique, entre espace de vie et espace onirique. Comment habiter un endroit qui s'ouvre à une expo? Comment reprendre possession des lieux une fois l'expo terminée? Comment écrire, dessiner, sculpter, peindre, performer dans un lieu de vie. Hybridation donc, mais aussi déplacement, circulation, va-et-vient entre tenant et aboutissant de cette affaire mentale que l'on tentera de détricoter un peu ce soir, aider de nos invités. Sarah Olvek, artiste plasticienne, cofondatrice de Pauline Perplexe, espace indépendant d'ateliers et d'expositions à Arcueil, à partir duquel elle officie également en tant que commissaire. Céline Vacher-Olivieri, artiste plasticienne. Anne-Lou Vicente, critique et commissaire d'expo indépendante. L'expo de groupe Le Corps Collectif, autour du legs de l'artiste brésilienne Ligia Clark, un temps prof iconoclaste au centre Saint-Charles de l'Université Paris 1. Qu'elle a curaté est ouverte au public jusqu'à samedi, à ce même centre dans le 15e arrondissement de Paris. Et finalement, Marcel De Villeur, artiste plasticien et performeur. Marcel nous fait la gentillesse de nous accueillir chez lui, dans sa cuisine, dans son salon, sa salle de bain et sa chambre, en passant par les escaliers, transformer le temps d'une émission radio en plateau scénique, magique, où vont s'opérer lecture, diffusion audio et discussion.
Bonsoir à toutes et tous. On vient d'entendre, d'écouter le tout début du premier film de Chantal Akerman qui s'intitule « Saute ma ville » et qui date de 1968. Et ce film donc, commence par cette ascension depuis la rue, l'espace urbain, l'ascenseur qui ne marche pas, donc l'escalier, jusqu'à l'appartement de ce personnage qui est joué par Akerman et qui, on entend, se verrouille dans sa cuisine. Donc ce film commence se passe dans la cuisine, tout comme le début de cette soirée chez Marcel. Et ce film, bon, on ne va pas le raconter ici, mais se termine assez mal. Et la cuisine, donc, qui est à la fois le lieu où on est là, ici, mais aussi un motif récurrent du cinéma de Chantal Akerman, notamment dans le film culte Jeanne Dielman, comme à la fois le lieu voilà, où s'opère une forme de schéma très répétitif de la femme assignée un peu à domicile et aux tâches ménagères. Et en même temps, ce film, Jeanne Dielman, de 1975, qui lui aussi se termine assez mal, de manière assez sanglante, est fait la même année que cette pièce de Martha Rosler, cette vidéo « Semiotics of the Kitchen », où elle, finalement, elle fait une sorte de démonstration comme une émission de recettes de cuisine, mais en laissant entendre, ou en tout cas en suggérant par le geste, l'usage plus meurtrier et féministe de l'ustensile de cuisine. J'espère que tout ça ne se passera pas dans cette cuisine ce soir, on verra. Mais on est effectivement ici dans ta cuisine, Marcel. Et une cuisine où se trouvent différents éléments, mais notamment une phrase qui est, je crois, productions.
Tout à fait. C'est une phrase que j'ai écrite l'année dernière à l'occasion d'une exposition qui s'est déroulée dans ce même bâtiment où nous sommes aujourd'hui, dans plusieurs ateliers logements de la cité Montmartre aux artistes, et qui était curatée par Fiona Villemer. Et pour cette occasion, j'avais eu l'idée d'écrire sur le mur de la cuisine une phrase qui a été réalisée au pochoir. Elle est écrite à la feuille d'aluminium. Donc elle a cette particularité de renvoyer la lumière, de se modifier selon l'heure de la journée, selon la luminosité à l'intérieur de la pièce, de disparaître aussi parfois, de devenir transparente éventuellement. Et donc cette phrase est écrite sur quand on entre en fait dans l'appartement, on entre dans la cuisine et elle est écrite sur le mur de droite et elle fait face à une fenêtre qui elle-même donne sur la cour de l'immeuble et sur les fenêtres de mes voisins d'en face. Et donc il y avait aussi l'idée que cette pièce puisse être vue par mes voisins peut-être depuis leur fenêtre. Et donc d'interroger aussi cette relation à l'espace domestique, à la possibilité, enfin à une sorte de comme ça de possibilité d'entrevoir chez l'autre, une sorte de porosité entre cet espace intime qui deviendrait un espace d'exposition aussi, notamment par l'intermédiaire de cette ouverture, et que j'avais aussi qui pour moi était aussi agissait un peu comme une sorte de pupille. D'obturateur qui permettait d'éclairer ce mur sur lequel la phrase est écrite et de révéler donc ce mur comme une sorte de rétine finalement et je pensais que cette cuisine pouvait presque devenir une sorte d'œil, enfin l'intérieur d'un œil, donc une sorte de référence anatomique directe au corps humain. Et donc cette phrase dit en anglais « Your eyes explore the transparency of the air. Around you, the walls reflect a white, clinical light that illuminates your face. you blink, words reach you with a slight delay, ce qui veut dire vos yeux explorent la transparence de l'air. Autour de vous, les murs reflètent une lumière clinique et blanche qui illumine votre visage. Vous clignez des yeux, les mots vous atteignent avec un léger délai. Et donc il y avait aussi dans cette phrase l'idée de presque quelque chose de performatif hein, qui elle commente l'acte de vision, de perception de la personne qui est en train de la lire, et elle fait aussi basculer la lecture dans un acte de perception et de vision. Donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et voilà. Et juste pour introduire, nous allons écouter une lecture de Céline d'un texte qu'elle a écrit et suivra une lecture de « Je mange un œuf » de Nicolas Pagès.
Je somnolais sur un canapé en regardant la télé. Il était assez tard dans la nuit, je m'attais de vraie merde, mais j'avais pas vraiment le courage d'aller me coucher. Soudainement, je réalise que tous les éléments du décor sont inversés par rapport à la perception que j'avais de l'espace. Comme si je regardais dans un miroir. Je sens une présence derrière la porte d'entrée. En me penchant un peu, j'aperçois la porte. Il y a un jour entre le seuil et le bas de la porte. Dans cet interstice lumineux, une paire de chaussures se dessine, genre bottines, avec de gros talons carrés. En les voyant, je suis envahie d'un sentiment de peur puissant qui m'immobilise. La vue de ces chaussures me rappelle que la personne qui les porte veut rentrer dans l'appartement. Ce n'est que maintenant que je me rends compte, mais à plusieurs reprises, cette personne est rentrée chez moi pendant mon sommeil. Elle y cherchait quelque chose que je ne peux déterminer. Je décide d'allumer toutes les lumières et de ne pas m'endormir pour la décourager de rentrer. Mais je m'endors. Les lumières s'éteignent. Je me réveille et elle est rentrée. Je la vois très distinctement, mais elle m'est complètement étrangère. Elle a de longs cheveux, il dissimule habilement son visage. J'essaye de lui parler, je lui demande ce qu'elle veut, pourquoi elle s'obstine à rentrer chez moi. Elle me regarde à travers ses longs cheveux. Elle s'en saisit et m'offre la choucroute de ses cheveux. C'est ce que sa voix dit dans ma tête. Je mange la choucroute de cheveux. Il ne lui reste alors qu'une croûte informe sur le crâne. Elle s'est enfuie sans que je ne puisse rien y faire.
Je me réveille, je me lève, j'ai mal partout. Je pense à hier soir, je me balade dans la maison, je mets un peignoir. Je suis dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je bois un verre de jus d'orange. Je cherche mes cigarettes, je retourne dans ma chambre, je trouve un paquet de Marie Longue. Je suis dans la cuisine, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre les armoires. Je regarde ce qui me ferait envie. Je suis seul. J'entends le téléphone sonner. Je ne réponds pas. J'écoute le message. Je reconnais la voix de C. Je décroche. Je parle avec C. Il rentre dans le début d'après-midi. Je prends une douche. Je bois un café. Je mets dans le toaster des muffins. Je les beurre. J'ajoute du sel. Je goûte une confiture aux fraises que C a faite. Je m'habille. Je me brosse les dents. Je fume une cigarette sur le balcon. J'entends le bruit de la voiture de J. Je regarde par la fenêtre. Je vois J et C. Je mets mes Birkenstock. J'ouvre la porte. Je descends. Je rejoins C et J dans le jardin. Je bois un café. Je discute avec J. J'ai envie de travailler. Je demande à J de m'amener à Soho. J'essaye un casque. Je suis derrière J, sur sa Harley. Il fait beau. J'attends J pour ouvrir le magasin. Le code du coffre ne fonctionne pas. Je m'assieds à une terrasse. Je bois un café. Je fume une cigarette, j'achète le Time Out, je feuillette Time Out, je cherche un stylo dans mon sac, j'entoure ce qui m'intéresse, je vois J, je ne peux pas travailler aujourd'hui, je mets le casque, je monte sur la moto, je descends de la moto, j'attends J devant le poste de flic, je marche dans Regent Park, je m'assieds sur un banc, je lis Time Out, je regarde les passants, je reviens vers le poste de flic, je vois J, je monte sur la Harley, je regarde les rues, je m'accroche à J. Je me fais écraser un pied par une voiture. Je hurle. Je suis con. Je suis chez C et J. Je m'allonge dans l'herbe. Je monte à la cuisine. Je prépare une assiette de fromage avec du pain. J'épluche des carottes et du céleri. Je prends 3 bières dans le frigo. Je joue avec C au ping-pong. Je m'allonge dans l'herbe. Je feuillette un magazine. Je bois de l'eau. Je me change. Je joue au tennis avec C et J et M. On fait un double, je bois de l'eau, je rentre à la maison, je prends une douche, je m'habille, j'aide C à la cuisine, je m'occupe du barbecue, je mange du calamar grillé, des brochettes de saté, de la salade, je bois un bourgogne blanc, je discute, je reçois des gouttes d'eau sur la tête, je me lève, je range la table, je mets la vaisselle sur un plateau, je monte les escaliers, je suis à la cuisine, je sors la glace du congélateur, je discute avec Jean, je bois un verre de whisky, je fume sur le rebord de la fenêtre, je me déshabille, je me couche.
Suddenly I'm falling. I'm falling upright.
I was falling and twisting.
I'm falling upright.
Slow twist, head over feet, stretching out, increasing in speed. Mouth open wide, but no sound.
It's in space. A complete feeling of space and nothingness. Nothingness.
Started off by floating. Held up by my garments, which had already held me back. Somehow I started to accelerate, gather speed, and I accelerated more and more and more. My head was down. I was speeding downwards into some great pit, accelerating all the time and increasing in speed. Tumbling and falling, no more floating at all, just tumbling and falling and accelerating all the time, faster and faster. I felt as if I was falling forever.
Not quickly, but I am definitely going down, 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 and I know that nothing, nothing can stop me. I try sometimes to think in myself, oh, this is lovely, you should be enjoying this, but I'm so panic-stricken. I know this is the end, and I've finished. I'm just sinking, sinking into this great black void. I see no clouds at all. I was falling through this water. It was all around me, this water. I didn't like it. I was falling. I got my legs in the air and my hands out. It was all around me, this water. I didn't like it. I got my legs in the air and my hands out and my arms outstretched. And suddenly all this water became full of other people and other things, all falling. Full of other people and other things, all falling. And chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. All going downwards the same as I was. People like me with their arms outstretched and their legs. All going downwards the same as I was. And chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. People like me with their arms outstretched and their legs. And I put my arms out and tried to catch hold of them. And I tried to catch hold of them.
All I can remember is falling into the water, which was very dark and very deep.
All floating downwards through this water. All going downwards the same as I was.
Accelerating all the time, faster and faster. Accelerating all the time and increasing in speed.
I was speeding downwards.
Sinking into this great black void.
Reeling down into a sort of chasm. Reeling down into a sort of great big hole.
It was a long way down. It was a long way down. And I felt myself falling. It was a long way down. I couldn't do anything about it. Fell off the edge of the mountain. It was very dark. It seemed to go down and down and down. It seemed to go down and down and down. It was a long way down. I couldn't do anything about it. It was very dark and very deep. It was very dark and very deep. It seemed to go down and down and down. It seemed to go down and down and down.
Upright. And I've finished. I'm just sinking into this great black void. I see no clouds at all.
It's in space. The complete feeling of space and nothingness.
Everything is black and I fall and fall and fall. And I know that if I don't pull myself up, if I don't forcibly stop myself, I'll die if I reach the bottom. So I make a tremendous effort to stop myself. I must stop myself doing this. I jump in the air and there's a great big jump. Then I've stopped dying. A complete feeling of space and nothingness. I see no clouds at all.
On vient d'écouter un morceau d'Elia Derbyshire, ou plus qu'un morceau, une collaboration avec Barry Dermange qu'ils ont faite en 64 et qui s'appelle The Dreams. Et ce morceau qu'on a entendu est Falling. Et donc ça faisait partie d'une commande de la BBC qui s'appelait Inventions for Radio, donc une collaboration de Barry Dermange, poète, et d'Elia Derbyshire, une des papesses de la musique électronique. Et je vais de ce pas vous lire un extrait d'un texte de l'artiste brésilienne Ligia Clark, qui date de 83 et qui s'intitule « De l'acte », dans lequel elle parle de son processus créatif, mais aussi de son processus onirique, en quelque sorte. L'espace architectural me trouble. Peindre un tableau ou faire une sculpture est si différent que de vivre en termes d'architecture. Maintenant, je ne suis plus seule, je suis aspirée par les autres. C'est une perception si impressionnante que je me sens arrachée à mes racines. Instable dans l'espace, il semble que je me désagrège. Vivre la perception, devenir la perception. En ce moment, je suis presque tout le temps malade. Je n'arrive plus à avaler quoi que ce soit et mon corps m'abandonne. Je deviens une existence abstraite. Je me noie dans de véritables profondeurs, sans point de référence avec mon travail, qui me regarde de très loin, de l'extérieur de moi-même. C'est moi qui ai fait ça ? Anxiété, délire de fuite. Je ne suis retenue que par un fil. Mon corps m'a abandonnée. Morte, vivante, je me laisse atteindre par les odeurs, les sensations tactiles, la chaleur du soleil, les rêves. Un monstre surgit de la mer, entouré de poissons vivants. Le soleil brille très fort et soudain s'éteint. Les poissons, morts, sur le ventre, blancs. Puis le soleil brille à nouveau. Les poissons sont vivants. Le monstre disparaît dans les profondeurs. Les poissons avec lui. Je suis sauvée. Un autre rêve. À l'intérieur, qui est l'extérieur, une fenêtre et moi. À travers cette fenêtre, je veux passer à l'extérieur, qui pour moi est l'intérieur. Quand je me réveille, la fenêtre de la chambre est celle du rêve. L'intérieur que je cherchais est l'espace du dehors. Souvent, je me suis réveillée à la fenêtre de ma chambre en train de chercher l'espace extérieur, comme si c'était le dedans. J'ai peur de l'espace, mais je me reconstruis à partir de lui. Durant les crises, il m'échappe. C'est comme si nous jouions, lui et moi, au chat et à la souris, à qui perd gagne. Je suis l'avant et l'après. Je suis le futur dans le présent. Je suis le dedans et le dehors, l'endroit et l'envers. Ce qui me touche dans la sculpture, le dedans et le dehors, c'est qu'elle transforme la perception que j'ai de moi-même, de mon corps. Elle me modifie. Je suis amorphe, élastique, sans physionomie définie. Ses poumons sont les miens. C'est l'introjection du cosmos. Et en même temps, c'est mon propre moi cristallisé en un objet dans l'espace. Le dedans est le dehors. Un être vivant ouvert à toutes les transformations. Son espace intérieur est un espace affectif.
À l'époque, j'habitais dans une maison. Une nuit, une personne vole tous les cadres de la maison, et seulement cela. Suite à ce vol, toutes les maisons qui habitaient la ville où se trouvait la maison sont venues constater ce qui s'était passé. Des tas de gens s'adressaient à moi, disaient mon nom, alors que je ne les connaissais pas. Dans le sous-sol de cette maison, les gens ont commencé à s'installer, à aménager les lieux. Moi, on m'a installée à une table et j'ai dû subir une sorte d'interrogatoire. L'épreuve consistait à repérer et corriger des noms d'artistes ou de musées dont une lettre avait été changée. Dans la liste, je ne connaissais que le nom du Grandinone. Après cette épreuve, une exécution de chats accusés de différents vols, dont celui des cadres qui occupaient les murs de la maison, est ordonnée par le maître de cérémonie. Il dispose 8 caisses au centre de la pièce. Elles forment un rectangle. Le maître de cérémonie soulève chaque caisse et les asperge de parfum pour masquer l'odeur des corps en putréfaction des chats, qui sont en fait morts étouffés dans leur boîte, échappant en quelque sorte à l'exécution. Je décide de mettre au point une vengeance sanglante. Je remplis des dizaines de seaux de sang que je verse sur la maison depuis le toit. Donc... Oui, voilà, on comprend que pour plusieurs de nos références ou de nos écrits, l'espace domestique n'est pas forcément un endroit où on est très à l'aise. On a pas mal parlé de choses entre nous, et notamment de deux films. Donc House de Nabuhiko Obayashi, qui raconte en fait l'arrivée de quatre ou cinq jeunes filles, je ne me souviens plus très bien, dans une maison pour visiter la tante de l'une. Et il se trouve que la maison va se mettre à manger les jeunes filles pour nourrir la tante qui est toujours à la recherche de sa jeunesse perdue. Donc ça a été un peu une sorte de, pas de fil conducteur, mais en tout cas d'ambiance qui nous a suivi pendant la préparation de l'émission. Et puis un autre film qui a été très important pour nous, c'est Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, qui en plus se passe pas très loin d'ici, enfin est tourné un été
à Montmartre.
À Montmartre, voilà. Il y a des scènes dans un square notamment, et aussi il y a une histoire de maison dans ce film où en fait les scènes se répètent inlassablement comme une espèce de mauvaise pièce de théâtre entre deux femmes et un homme et une petite fille qui est menacée par ces deux femmes, et en fait une histoire dont on veut plus entendre parler et dont Céline et Julie ne veulent plus entendre parler non plus. Voilà pour donner une petite ambiance sur comment on a aussi laissé nos rêveries et nos fantasmes traverser l'émission.
Et dans Céline et Julie vont en bateau, il y a aussi une espèce de quête quand même assez réjouissante, complètement folle, dans le quartier de Montmartre, mais qui est aussi assez drôle, quand même, parfois.
Oui, il faut le rappeler. Nous aussi, on est hyper drôle. Mais...
et notamment, on relevait tout à l'heure une chose assez intéressante, c'est dans le traitement, dans les dialogues, et dans le traitement du langage dans le film. Il y a des jeux de mots, tout un tas de jeux de langage quoi, qui sont assez drôles et qui ont l'air de permettre aussi de tout à coup de dérailler et de sortir du cadre du quotidien et du réel pour entrer dans le domaine de la fiction et du fantastique. Ouais. Et il ne faut pas aussi oublier que ces deux personnages mangent des petits bonbons qui leur permettent de se remémorer les scènes de ce qui se passe dans cette maison, dans ce monde parallèle. Et donc elles passent un certain temps à sucer et croquer des petits bonbons multicolores.
Qui les font rire.
Des bonbons psychédéliques. Qui les ramènent effectivement par projection à l'endroit... où elles sont allées, mais dont elles n'ont pas souvenir, en fait.
Ouais.
Et c'est un peu comme si elles-mêmes regardaient le film, film.
C'est vrai qu'on les voit dans un... D'ailleurs, ça se passe dans un atelier, quelque chose qui ressemblerait à un atelier logement, en fait, à Montmartre.
Le 7 bis rue du Nadir aux Pommes.
Non, ça, c'est la maison.
Ah,
mais là où elles sont...
À Colombes.
Ouais. C'est dans le 18e.
Je crois que c'est à Colombes.
Ah, okay.
La maison, c'est ça, 7 bis rue du Nadir aux Pommes, c'est ça?
Ouais,
ça existe vraiment?
C'est ça.
Ah non.
Je crois pas, non. Mais elle se trouve dans un espace qui ressemble un petit peu au salon dans lequel on se trouve là, enfin, à l'atelier séjour dans lequel on se trouve là. Et en effet, il y a une scène où on les voit croquer ces petits bonbons et on dirait qu'elles sont en train de contempler l'écran, un écran sur lequel serait projeté le film de cette. Ce film, enfin cette fiction, quoi.
Dans laquelle elle joue, finalement.
Dans laquelle elle joue elle-même.
Ouais. À tour de rôle aussi, au départ, puis ensemble, in fine.
C'est-à-dire que la maison est vraiment comme... Enfin, je veux pas du tout me faire... Enfin, bon, pardon. Non, la maison est vraiment l'endroit de la pièce de théâtre entre, comme je disais, les deux personnages féminins. Et on a vraiment l'impression... De regarder une pièce de théâtre où le jeu est toujours le même, où le scénario est toujours le même. Et c'est vrai que cet espace domestique produit aussi une forme d'angoisse. Quoi.
Ouais, parce que cette fiction ne cesse de se répéter à l'intérieur de cette maison. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était justement la piste de cet enchevêtrement entre la fiction et l'espace du quotidien domestique de cette réalité qui tout à coup se retrouve... déraille vers la fiction.
Et
quoi.
Effectivement se répète un peu à l'infini, comme une espèce de retour.
Spirale.
Jusqu'à la fin qui repart un peu au début, sans tout raconter.
Je vais lire l'extrait d'un texte qui se passe dans une maison aussi, qui peut faire penser à la maison dans laquelle différents personnages s'évanouissent et dans laquelle il y a ces boucles, parce que c'est aussi une maison en Molière. Voilà. Donc, dans la cour du 90, le sol est goudronné. Quelques voitures s'égarent et des bâtiments s'y succèdent. L'un en Molière, les autres en béton. Carole a 61 ans, sa tête est couronnée d'une natte qui hésite entre le blanc et le blond. Elle vit ici depuis 10 ans, entourée de nombreux artistes et de nombreux enfants. L'espace de stockage de l'atelier collectif n'a qu'une entrée. Il est sans fenêtre, sur plusieurs mètres. On y entrepose les invendus, les sculptures s'y côtoient, accidentellement, perdent leurs contours, se dissolvent les unes dans les autres. Masse indéterminée qui quadruple l'épaisseur des murs. Des souris jouissent de ce lieu sans mouvement, se faufilent dans les recoins privés de lumière, construisent leur logique, leur route balisée par l'odeur que leur pelage laisse sur les parois auxquelles elles se frottent. Elles rendent vivant l'arrêt, électrisent ce qu'on laisse là en attendant. Une sculpture de feutre imbibée de sucre s'affaisse sur un vase de plâtre orné de tranches de pamplemousse. Les deux grignotés. Dans la maison d'en face, les discussions fusent, les réflexions de l'un et de l'une déteignent sur celles de l'autre, entrecoupées par le bruit des casseroles, du four à micro-ondes, de blagues et de silences flottants. Au stockage, ces frottements se solidifient sous la forme d'une infinité de minuscules crottes sèches. Sur le sol de l'atelier de Carole, étagères en aglos, cartons ouverts, cabas, tati, aldi, lidl, cagettes, balais, caisses consignées et retournées. Partout un moncellement de poussière, de copeaux, de gros et de petits morceaux de polystyrène pour préparer des décors de théâtre. Elle y a taillé des coquillages ratés, des pines marines, des conches qui deviennent des mains, des pattes, des dents, des régiments de bananes et plusieurs têtes de cheval. Au pied du large fauteuil d'osier, accroupi au-dessus d'une masse noire et solide, Alexis, 17 ans, pousse de toutes ses forces. Ses mains attrapent ses pieds, il tangue de gauche à droite, gonfle ses joues, nuque courbée. Ensuite, il prend son frère au cou, le traite de connard, puis lui écrase le visage de sa main empaquetée d'un gant blanc, rembourré du dos jusqu'à la paume et dans chacun de ses quatre doigts. À côté, dans la salle d'activité, les enfants dessinent groupés. Cohérence feinte, feutre à moitié sec et mine comptée cirée. L'un d'eux finit plus vite et sautille jusqu'au baby-foot. Le bruit du claquement des manivelles enflamme, l'activité est déviée. Massivement, les chaises se déplacent, les fesses se lèvent, les dessins s'interrompent, sec. Sur les feuilles éparpillées, des phrases. Mister You, 30 juin 2019, 21h29, osé dans le 19, j'ai la F. À côté, une esquisse de château fort ou un dentier, suivi de Taleb Taleb, deux fois raturé. Pas loin, des taches argentées et leur halo huileux. Puis des S américains, des débuts, des échecs, des armatures. Aussi, un doigt rigide, presque courbaturé, posé sur le haut du caps, appartenant à une bombe de peinture aérosol, absente. Ailleurs encore, ventre rond, encadré par un buste rectangle viril, sans tête, juste un bras, le droit. À côté du vacarme des enfants électriques, les inscriptions incomplètes flottent, déliées de toute composition. Réunies sur la table d'activité, elles semblent tendre vers une cohésion, une forme mouvante, presque une séquence. Donc c'est un texte qu'on a écrit avec un artiste qui s'appelle Florent Dégé, dans le cadre d'une résidence qui était dans une autre maison en Molière, encore dans la ville de Troyes, le centre d'art Passage. Et donc avec Florent, on travaille depuis 10 ans dans cet espace d'atelier d'exposition qui s'appelle Pauline Perplexe, encore une autre maison en Molière, donc, enfin la même. Pauline Perplexe, c'est un espace, donc c'est une maison. C'est une maison dans laquelle il y a des chambres. Chacune de ces chambres, ce sont des ateliers. C'est pas vraiment un espace où on vit, c'est un espace où on dort un peu. Et il y a un grand garage qui a été converti en salle d'exposition et dans lesquelles on invite donc des artistes à faire, à intervenir, à faire des propositions qui sont rarement déliées de ce que propose le lieu. Parce que on rentre dans un espace, on comprend pas bien s'il est public ou privé, on comprend pas bien non plus chez qui on est. Ça s'appelle Pauline Perplexe. Donc Pauline, elle est perplexe, elle est légèrement en retrait, elle est presque totalement absente, et elle est une fiction. Et donc les personnes qu'on invite se saisissent souvent de la complexité de cet espace. Et on avait invité Céline à faire une exposition qui s'appelait Jus privé baiser, et dans laquelle elle avait posé un lit.
Oui, tout à fait. C'est une pièce que j'avais déjà faite dans un autre espace à Brest qui s'appelle Les Abords, quelques années auparavant. Et en fait, ça m'a intéressé de rejouer cette pièce à Pauline Perplexe. Donc, Ce qui change pas dans cette pièce, c'est les tissus que j'utilise pour faire le molletonné, le confortable. Et puis, en fonction de ce que je trouve sur place, je fabrique le cadre du lit. Donc ça va définir un peu aussi sa taille et le nombre de personnes qui pourront s'installer dessus, parce que c'est vraiment pour moi un espace, je sais pas si j'ai envie de dire en plus, mais en tout cas il rajoute une espèce de couche à la proposition que serait l'expo. En fait là, donc ce lit s'appelle, a toujours le même titre, hein, ça s'appelle For a Good Time, donc ça suppose qu'on va y passer un bon moment. Et pour moi, ça suppose aussi qu'on va s'y installer, non pas pour contempler ce qui nous entoure, ça ne m'intéresse pas du tout, mais pour justement proposer une autre dimension, enfin une sorte de commentaire qui pourrait se faire sur l'expo, mais aussi sur la vie et sur les relations qu'on entretient les uns les unes les autres. Donc on s'installe sur le lit et on parle. Mais ce n'est pas obligé, hein, mais... c'est possible qu'on parle. Il y a des objets qui sont sur le lit, donc ça devient aussi une sorte de socle pour d'autres objets que je fabrique. Des objets qu'on peut manipuler. En tout cas, moi, je laisse la responsabilité à chacun de gérer son rapport aux œuvres qui sont montrées, quoi. Et puis, il y a un côté très pratique aussi dans cette pièce, c'est que des fois, on attend le visiteur ou la visiteuse dans les expos. Du coup, j'avais envie d'avoir un espace plutôt confortable où je pourrais m'allonger et regarder un film, parce que les après-midi peuvent être un peu longues. Malheureusement, Pauline Perplexe paraît loin, mais ce n'est pas du tout loin. C'est que 20 minutes de Châtelet en RER. Hein. Et donc voilà, c'était aussi un espace pour moi pour pouvoir passer le temps, tout simplement.
Attendre un bon moment.
Attendre un bon moment ou passer un bon moment en solitaire, c'est aussi tout à fait possible dans son lit.
Tu peux nous parler peut-être de quelques objets qu'il y avait, justement des sculptures sur le lit, sculpture ou socle.
Oui, alors notamment, par exemple dans l'expo à Brest, il y avait des objets qui sont différents. En fait, je pense que c'est une pièce que j'ai fait que deux fois et peut-être je la referai, je sais pas encore, mais à chaque fois je pense qu'il y aura des objets différents, parce que c'est aussi très contextuel et aussi dans le temps de ma pratique et dans quel travail je suis au moment de l'exposition. Et donc à Brest, il y avait une sorte de sac transparent avec des objets à l'intérieur. Bon, voilà, c'est un peu un motif récurrent dans mon travail. Et il y avait des huîtres, des coquilles d'huîtres dans lesquelles j'avais peint des yeux. Et on pouvait retourner les coquilles pour que les yeux nous regardent ou les yeux ne nous regardent pas. Et à Pauline Perplexe, il y avait donc un gant. C'est des gants que je fabrique à partir de tissus usagés de mon atelier. Et je ne fabrique pas la paire de gants, je fabrique toujours un gant. Et la pièce s'appelle « Un gant perdu est heureux ». Voilà. Et donc les gens... Enfin, les visiteurs et les visiteuses pouvaient manipuler les objets, comme je le disais, et c'est vrai que des mains se sont engouffrées dans les gants. Et puis chacune disant « Oh, ce gant n'est pas à ma taille » ou « Ce gant est trop grand ». Enfin, il y avait vraiment un rapport aussi de l'espace intérieur du gant par rapport au corps. Et il y avait un sac à dos qui est une... En fait, je reproduis mes propres sacs à dos en tissu, pareil, des tissus trouvés, c'est des objets qui sont clos, mais à leur surface, il y a toujours des choses qui apparaissent. Et le sac aussi a été très manipulé, très retourné dans tous les sens. Il y avait un dentier en plomb, un moulage de dentier en plomb qui s'appelait « Outil de médiation ». Donc les titres sont importants dans mon travail. Et voilà, l'outil de médiation, le plomb dans la bouche empêche de faire la médiation de l'exposition. Et c'est aussi ce que je raconte sur comment on se positionne sur le lit et qu'est-ce que ce lit permet. C'est pas pour faire la médiation de l'exposition. Voilà, puis il y avait d'autres petits objets, si j'oublie rien. Mais...
En tout cas, un autre type de médiation.
Un autre type de médiation, tout à fait. Mais qui s'écarte de son sujet. Et c'est ça qui m'intéresse.
Idéalement, qui s'en écarte,
idéalement,
qui s'en échappe.
Oui. Ouais, je ne contrôle pas les
dérive.
Esprits des gens. C'est vrai, malheureusement.
Je vais lire un texte. une nouvelle, une courte nouvelle, de Julio Cortázar, qui s'appelle « Continuité des parcs » et qui fait partie du recueil « Fin d'un jeu ». Continuité des parcs. Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoir et discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement divers, il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l'entourait, tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé et que les cigarettes restaient à la portée de sa main et qu'au-delà des grandes fenêtres, le souffle du crépuscule semblait danser sous les chênes. Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquéraient progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui se dérobait aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été oublié. Alibi, hasard, erreur possible. À partir de cette erreur, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacable répétition était à peine interrompue le temps qu'une main frôle une joue. Il commençait à faire nuit. Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. À son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. À la fin, il distingua dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer et ils n'aboyèrent pas. À cette heure, l'intendant ne devait pas être là et il n'était pas là. Il monta les trois marches du perron et entra. À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon, et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman.
C'est en partie dans ce fauteuil que j'ai lu ou relu les quelques livres dont il va être question ici et qui font qu'aujourd'hui j'écris ce texte, depuis ce même fauteuil. Je les ai lus parmi d'autres textes, d'autres livres, et puis j'y suis revenue en pensant à cet espace de travail qui était désormais le mien et que je m'appropriais progressivement. Ce bureau, mais plus que ça, presque une chambre, qui de manière inédite, pour ne pas dire inespérée, s'offrait à moi. J'ai donc relu ce merveilleux texte de Francis Stark, intitulé « L'architecte et la femme au foyer ». Au début de ce récit, qui intègre non sans humour, anecdotes personnelles et réflexions théoriques, voire sociopolitique sur le rapport des hommes et des femmes à l'espace intérieur versus extérieur, à l'architecture, l'art et la décoration, l'artiste et autrice parle de son bureau. Il a la particularité de longer le dossier de son canapé, dessinant une diagonale de séparation dans son salon-atelier au mur recouvert de dessins, ce qui a manifestement le don de faire fuir ses invités vers d'autres assises, voire d'autres pièces de son petit appartement, comme si ce lieu dédié à la pensée et à la création entrait en collision, dans son dos qui plus est, avec l'air de repos et d'hospitalité que représente a priori le sacro-saint sofa. Un atelier ou autre espace de travail serait-il plus intime qu'un simple salon ? Ou est-ce qu'un canapé fait tache dans un bureau ? Le dilemme que suscite la présence d'un canapé dans mon atelier est peut-être intéressant, écrit Francis Stark. Quand je lis un livre ou que je dessine sans être totalement concentré, je finis par lever les yeux et regarder dans le vide. Comme on ne peut pas regarder le vide éternellement, je me mets à regarder autour de moi et à me dire que cet endroit est trop en désordre, ou pas assez joli, ou qu'il faudrait nettoyer ses tiroirs, ou peut-être que si je mettais un autre meuble ici, je pourrais ranger telle ou telle chose et cela me faciliterait la vie. Je vous épargne une description détaillée de mon travail qui est entièrement tournée vers la productivité. Je dirais seulement qu'il n'est pas difficile de ressentir la même solitude, la même angoisse et la même envie constante de redécorer son chez-soi que celle que doit éprouver à mes yeux une femme au foyer. Cette forme d'angoisse liée à un travail solitaire dans un environnement domestique est précisément ce qui me fait penser à la femme au foyer. Fin de citation. Vous l'aurez compris, contrairement à la configuration de mon ancien appartement, le nouveau me permet d'avoir mon propre espace de travail, lequel se révèle néanmoins totalement ouvert et en cela poreux à la vie domestique, puisque directement connecté à l'atelier à usage multiple, lui-même connecté à l'appartement, à la vie de famille, au foyer. Ça me donne envie d'allumer un feu de cheminée, tiens. C'est sans doute une des rares choses qui me manquent ici, une cheminée. Mais le hasard a fait que, depuis ma mezzanine bureau, j'ai une vue imprenable sur le square Valentine Schlegel, où batifolent et vocifèrent de très jeunes enfants au milieu des jeux colorés plantés dans le sable. Originaire de Sète, Valentine Schlegel avait vécu au 25 rue Bézout, au 65 rue Bézout, dans le 14e arrondissement, avec Yvonne Brunamer, conservatrice en chef du musée des arts décoratifs entre 86 et 91. La première au rez-de-chaussée et la seconde au premier étage. Encore aujourd'hui, on peut voir à travers les grilles métalliques striant la vitrine du rez-de-chaussée de cet atelier-maison l'espace blanc façonné par l'artiste. L'atelier, la salle à manger, la cuisine, la cheminée, bien sûr, la porte aux ancêtres, la porte en cuir et la collection de couteaux tel un banc de poisson aux reflets argentés.
Je rentre un jour chez moi. La porte est ouverte, il y a des travaux. C'est le propriétaire qui a décidé de ça. Il veut absolument refaire la salle de bain. Je n'ai pas du tout été prévenue. Je pénètre dans la salle de bain pour prendre la mesure des travaux que le propriétaire a ordonnés. Je rencontre le plombier, il est super préoccupé, il me tourne le dos, il s'affaire, il ne veut pas me regarder ou me parler. Quand je regarde autour de moi, je constate que les murs ont été recouverts de coquilles de moules. Je dis au plombier que ce n'est pas possible, mais il me dit « c'est comme ça ». En plus des coquilles de moules qui sont collées au mur, toutes les peintures ont été refaites en marron clair, genre mousse au chocolat. Le plombier me dit « c'est comme ça ». Franchement, j'étais furieuse qu'on m'impose de vivre dans cette merde.
Mon dernier safari in Africa, c'était tout dingo. En crevettes chaudes. On allait tous les jours dans la savane pour chasser les animaux. J'avais un boa conquistador.
Non.
Un boa conquistador. Oui, un boa con qui m'adorait, quoi. C'est pas qu'il était dangereux. Je le mettais autour de mon cou. Quand les indigènes, ils ont tué le tigre, ils ont eu le plus gros. Ils disaient... que c'était le tigre of Bengali.
Bengali?
Le Bengale? C'est une région d'Afrique où ce qu'on était. Vous connaissez?
Un oiseau bleu et brun.
C'est l'empereur des pygmées qui m'avait invité. Or, Zuba la géante était jalouse. Elle voulait épouser l'empereur des pygmées qui m'avait donné la peau du tigre. Mais comme le roi des pygmées, il m'avait donné la peau du tigre.
C'était pas celle de l'ours?
Zuba, elle voulait ma peau. Ma peau à moi.
Alors je me suis sauvée.
Tu sais, j'ai vraiment failli clamser en revenant de la jungle. J'ai chopé des abîmes. J'ai perdu mes cheveux, tous mes poils ratiboisés. J'ai une pétoche folle. J'étais toute tomate.
Tomate?
Ben oui, quoi, déglinguée. On m'a invitée à Hong Kong.
C'est un rêve, ce bled. Je t'en poserai un jour.
Là-bas, il y avait un japonais qui faisait de l'acupuncture. Il me l'a faite. Et puis je suis restée un mois. Après, mes cheveux ont repoussé. Au début, c'était tout rouge, la couleur. Et puis c'est redevenu normal. Et puis je suis rentrée. Qui c'est, lui?
Lui?
Hmm.
C'est Grégoire.
Tout su, tout blanc, corps nu blanc, un mètre, jambes collées comme cousues. Lumière, chaleur, sol blanc, un mètre, carré jamais vu. Mur blanc, un mètre, sur deux plafonds blancs, un mètre, carré jamais vu. Cornu, blanc, fixe, seuls les yeux à peine. Trace, fouillis, gris pâle, presque blanc sur blanc. Main pendue, ouverte, creux, face, pied, blanc, talon, joint, ongle droit. Lumière, chaleur, face blanche, rayonnante. Cornu, blanc, fixe, hop, fixe, ailleurs. Trace, fouillis, signe, sens, sang, gris pâle, presque blanc. Cornu, blanc, fixe, invisible, blanc sur blanc. Seuls les yeux, à peine bleu pâle, presque blanc. Tête boule bien haute, yeux bleu pâle, presque blanc, fixe face, silence dedans. Bref murmure, à peine presque jamais tous su. Trace, fouillis, signe, sans sens, gris pâle, presque blanc sur blanc. Jambes collées comme cousues, talons joints, ongle droit. Trace, seul inachevé, donné noir, gris pâle, presque blanc sur blanc. Lumière, chaleur, mur, blanc, rayonnant, un mètre sur deux. Cornu, blanc, fixe, un mètre, hop, fixe ailleurs. Trace, fouillis, signe, sans sens, gris pâle, presque blanc. Pied blanc, invisible, talon joint, ongle droit. Yeux seuls inachevés, donné bleu pâle, presque blanc. Murmure à peine presque jamais, une seconde, peut-être pas seul.
Je lis la voix de Chantal Ackerman, La Chambre, 1972. Tu m'as tiré les cheveux et tu as disparu avant même que j'aie pu te battre ou crier. Alors j'ai avancé la tête, je l'ai reculée, je suis restée immobile et je me suis détournée. J'ai redescendu la volée d'escalier glissant, je me suis retrouvée dehors. L'aéroport était blanc de soleil, presque vide. J'ai marché tout droit dans le blanc qui se refermait derrière moi. Un moment, je me suis arrêtée pour demander le bus. J'ai continué à marcher jusqu'à l'arrêt. Il y avait deux personnes silencieuses qui attendaient avec moi. Cela faisait trois. On a attendu un bon moment sans se regarder. J'avais oublié que j'attendais le bus quand il est arrivé. J'ai demandé si c'était le bon bus au conducteur. Il m'a présenté sa main. J'ai mis l'argent dedans. J'ai pris le bus sans presque le savoir. Je me suis endormie contre la vitre bleutée. Je me suis réveillée. Je suis descendue du bus à Grand Central. J'ai pris la 42e rue. J'ai regardé 3 fois une montre. Je suis sûre qu'elle retardait d'une heure. Alors seulement, j'ai commencé à courir jusqu'au métro. J'ai décidé de ne pas prendre la première bouche. Je courais en pleurant. Le soleil surexposait la ville. J'ai pris l'IND, le D. Dans le train, quand je me suis assise, un gros noir s'est tourné vers moi. Il a ouvert très grand ses yeux, a étiré sa bouche dans un sourire grimaçant et l'a refermé aussitôt pour recommencer à l'étirer lentement. Il n'y avait que lui et moi dans le train. Je crois qu'il se moquait de moi. Je suis descendue très loin de la maison. Je n'aurais pas dû prendre le dé. J'ai marché. Je suis montée lentement. Je ne savais plus où c'était la clé. Je la tenais serrée fortement dans ma main. J'ai ouvert et je me suis jetée sur le lit. Je me suis relevée pour vérifier les 2 horloges. Elles marquaient la même heure, 10h30. Elles devaient sans doute retarder d'une heure. Je me suis recouchée. J'ai dormi sur le ventre, la tête dans les bras. Je ne pouvais pas voir si tu n'étais pas là. Quand je me retournais tout d'une pièce avec mes bras collés au visage. J'ai dormi jusqu'à minuit, sans doute jusqu'à 1 heure. Je me suis levée, j'ai sorti tous les vêtements de l'armoire et je les ai jetés par terre. Je me suis assise au milieu d'eux, j'ai mis d'un côté tous ceux qui étaient à coudre, de l'autre tous ceux qui étaient sales. J'ai ouvert le tiroir et j'ai jeté, l'un après l'autre, avec les 2 mains, tous ceux qui étaient propres. J'ai trouvé du fil rouge et une aiguille. J'ai mouillé le fil 4 fois avant de réussir à l'enfiler. J'ai cousu l'ourlet du pantalon rouge assise par terre. Sur le tapis, la lumière sur les jambes, je l'ai essayé. Je suis montée sur la chaise pour me regarder dans le miroir. Je suis redescendue. J'ai mis les chaussures et je me suis regardée à nouveau. Je me suis déshabillée. J'ai tout laissé par terre. Je me suis recouchée. J'ai vu que le lit était plein de sang. Je me suis couverte jusqu'au menton. J'ai rejeté les couvertures. Je me suis relevée. J'ai fermé toutes les lumières sauf celle de la cuisine. Je me suis recouchée sur le ventre. Je me suis dit que maintenant j'avais tout l'espace que je voulais. J'ai retiré aussitôt ma main et je me suis recouchée sur le dos. Et j'ai recommencé à t'écrire dans ma tête. Alors je me suis relevée. Il était 3 heures, donc 4. Et j'ai commencé à t'écrire sur la table, entre le fer à repasser et l'ananas.
I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
Allongée sur le lit d'une chambre,
Ma coloc et moi, on joue au Scrabble. Elle m'annonce, avec un air bien embarrassé, qu'elle s'apprête à poser toutes ses lettres. Elle est super gênée de me montrer son mot. Je comprends pas pourquoi. Si c'est parce qu'elle va faire beaucoup de points, et que je vais perdre. Si c'est à cause de mon côté mauvaise joueuse. Je m'agace. Je lui dis, mais putain, vas-y, pose-le, ton mot, c'est bon, on joue là. Elle sort ses lettres. Écarte-les bien tes bonnes cuisses. Ça me paraît un peu long comme mot. Mais comme chaque mot est relié au suivant par des tirets, elle me dit que ça marche. Je discute pas trop, je suis trop vexée parce qu'elle va éclater le score. Je lui dis, bah vas-y, mets-le.
Sur la table de son bureau, au centre de l'écran noir d'un site porno, le mur d'une chambre. Peinture murale, verre, pomme, éclairage électrique. Le reste de la pièce est anonymisé par un vaste morceau de tissu doudou brun vendu au mètre. Cadrage serré sur les demi-cuisses, genoux, mollets nus et musclés secs. Ses pieds, affublés de chaussettes montantes, Adidas, plaque au sol un tricératops de taille moyenne gonflé à bloc. Le poids du corps de l'acteur dévie la pression de l'air. Un pied fourré dans la joue, l'autre dans la poitrine, les extrémités avant et arrière, pattes, cornes, queue, se rehaussent sous la pression. Sur une autre chaîne, cadrage vertical. On y voit de la moquette grise et limée, une commode en chaîne et un centime qui traîne au sol. En surplomb, l'angle visible du lit est recouvert d'un drap housse rose fuchsia. Longtemps, il se filme en se chatouillant le pied. Doigts véloces et orteils souples. Ne bougent pas tous ensemble, mais se suivent. Simultanément, dans une seconde fenêtre, à droite de l'écran, le rythme cardiaque d'un gif animé exhibe le rebond ininterrompu d'un morceau de silicone teinté. La procession des cabedouzos gigantesques est retransmise sur le canal 9. Plusieurs personnes en parka, debout, de dos, s'emboîtent le pas. Pour mieux voir, un individu soulève partiellement son masque intégral. Double tête, la sienne, petite, puis celle, grosse, d'un roi mort et gonflé. De face, une enfant, de taille moyenne, rit. Elle porte un costume complet rouge, fait d'une cape, d'une jupe, d'une perruque, puis d'un sifflet. Les regards convergent vers la figure hébétée et boursouflée d'une reine géante et heureuse. Ossature de tasseau, robe verte, tissu synthétique, collerette et grosse tête de carton-pierre peint. Ses yeux immobiles, de la taille de ses joues, lui donnent l'air halluciné d'une myope et expriment une joie parfaitement symétrique. Dans un autre onglet, un homme, jeune, beau, dort. Cadrage serré sur sa tête et son torse nu. Bouche entrouverte, nuque baignant dans des draps quadrillés, collier de barbe et aisselle relevée. Un second individu, dont on ne voit que le doigt, soulève sa paupière pour filmer sa pupille qui ne se fixe à rien.
La ligne, engendrée par un point tournant autour d'un autre tout en s'en éloignant, décrit autour de l'axe une course équivoque, duplice et contrariée par un autre courant. Elle forme une spirale, enroulée dans un sens et dans l'autre à la fois. Tous les corps qui l'approchent, réversibilisés, précipitent au fond d'eux l'horizon de leur chair et le font rejaillir dans l'espace inversé de l'imagination. C'est à la conjonction de l'envers et l'endroit, lorsqu'est fourni l'effort de se représenter ce qui n'apparaît plus, que se produit l'image. Elle survient à l'instant où tout est menacé de ne jamais renaître, comme un dérivatif à l'extrême anxiété que nous inspire le vide. L'image rayonne. Elle a gagné la nuit, des parois argentées, où sont dressées les ombres, des arbres et des humains. Le chemin, ramifié, s'amenuise à mesure qu'il bifurque, comme un réseau de nerfs ou de vaisseaux sanguins irriguant les tissus noirs et bleus de l'image. Je porte un masque inextricable qui ne se dissocie pas de mon vrai visage. L'image énoncée parle à l'intérieur du masque. Elle emploie le mot « je » que je lui ai prêté. Elle dit « Imaginez-moi nu. Son corps est allongé en moi. Ses mains sont étendues à l'intérieur des miennes. Elle a passé ma peau comme on passe une veste. Elle emplit tout mon corps. Elle fait la même taille, mais elle n'a pas de poids. Elle dort. Le galbe de ses fesses investit complètement la cavité des miennes. Son pubis est louvé sous le sommet du mien, entre mes os iliaques. Mes aisselles, mes lèvres, ma nuque. Elle en est revêtue. Elle rêve de mon corps à l'intérieur du sien, qui rêve de son corps à l'intérieur du mien. Le jeu migre d'un songe à l'autre, explore l'anatomie fractale et méandrée du rêve. Le jeu passe du masque à son modèle, investit l'interstice où se joignent et s'indifférencient le similaire et l'autre. Le miroir accomplit le réel en le dotant d'un manque qu'il cherche à compenser. L'enfant s'abouche à lui. Il parle un langage inversé qui répond à l'image. Le temps a répété, infiniment depuis, sa similarité. Seul a varié l'échelle, révélant dans les corps d'insoupçonnés écarts. Il pleut. Je fléchis les genoux. Mes mains examinent le sol. J'évolue lentement. Mes doigts cheminent, tâtent, s'enfoncent entre les feuilles amollies et humides et d'autres encore craquantes et prêtes à se briser. Je respire, sans bruit. Je suis d'un blond lunaire, puéril. Autour de moi, les fleurs sont dressées et solides, immobiles, brunies d'ombre, ou bien d'un gris ferreux aux reflets verts et jaunes. Un peu de blanc persiste, et sa clarté s'égoutte des aiguillons des ronces, comme un venin d'un dard. Les branches et les racines répliquent infiniment leur structure autour d'elles. Dans l'enchevêtrement de ce fond spontané, primitif. Je ne distinguerai rien sans le concours des mots. Ils œuvrent en prélevant dans l'indifférencié des couleurs et des formes. Ils discernent les corps en les délinéant et les retranchent au flux. Nommer les composants du réel homogène, énumérer les choses inertes ou vivantes qui s'y épanouissent, revient à les extraire du règne solidaire auxquelles elles appartiennent, à rompre, sans chercher à dénouer les liens qui les gouvernent, puis à les repiquer dans le cours de la langue. Une fois acclimatées à cet écosystème, animé d'une vie virtuelle, les choses se déploient, se dilatent, dégorgent et fleurissent. Sous mes doigts, des unités s'énoncent. Dans la terre, les cailloux se détachent et se transforment en mots que charrie le poème. Dans le réseau de rails, emmêlé du poème, les wagons se percutent et déversent leurs frais. Au hasard de ces heures s'associent des objets que rien n'avait prédisposés à recouper un jour. L'image est un état psychique. Elle irradie mon corps. Je ne suis plus humain dans l'écorce des draps. Je vis d'une vie sourde, virtuelle et très approfondie, sans outils ni miroirs, sans parole. Je suis élémentaire, friable, miscible. La chambre m'assimile, puis elle me restitue dans un autre présent. Tout y est identique, mais anonymisé. Je reconnais le lieu sans pouvoir le nommer, ni retrouver sa place à l'intérieur du temps. Il faut franchir l'oubli pour rejoindre son nom, reclus dans l'archipel où il s'est exilé. Cet effort, cette tension du corps dans la récognition, fait saillir dans son zèle d'autres îlots furtifs, aussitôt immergés. Sur l'un de ces îlots, j'ai perçu brièvement le parfum d'un parquet, la couleur d'un rideau, les notions éphémères d'un milieu permanent, familier. Je descends l'escalier. Mes jambes et mes bras composent un bouquet d'états additionnés, de gestes. Bourgeonnant, s'attardant à éclore. L'immédiat se prolonge et me fait éprouver la très lente advenance du déjà. L'aiguille a déjà fait le tour plusieurs fois du cadran. Il a fait nuit deux fois. À présent, il fait jour. Sur la table, la carafe et les verres incisent profondément l'image. L'entaille, opérée par l'éclat de la glace et de l'eau, exude une lumière presque coagulée, où s'engluent les objets, comme inclus dans de l'ambre. Quelques quartiers d'orange sont couchés sur le flanc. La pulpe, gorgée de suc amer, pétille à l'intérieur des étuis translucides. On dirait qu'une image qui fait croître sa pointe va percer l'abdomen du fruit et mordre du dedans sa chair. Qu'elle va, dans une dernière mue, intégralement s'extraire de son masque d'écorce. Les images formées dans cette anatomie sont les terminaisons où s'accoste mon rêve, l'extrémité du cercle où se risque le moi et au-delà duquel un autre champ l'attire. La menace de la permutation d'un horizon et l'autre, de l'envers et l'endroit, c'est-à-dire tout ce qui rend possible une statue qui parle et qui cligne des yeux, ou mon ombre qui vit de sa vie propre et libre. Cette menace d'un réel aliéné par l'imagination, par son altérité, exalte tout mon corps et le fait exister. La nuit descend les marches, elle fait craquer mon corps. L'escalier tourne autour d'un axe qui me mène tout droit vers le début du poème.
On est chez moi et Ingrid s'est divisée en deux. Il y a Gigre et il y a Ingrid. Gigre est assise sur mon canapé gris qu'il ne faut pas que je tâche. Elle est mutique, elle a les jambes nues, le visage indistinct et les cheveux mi-longs. Elle est surtout des jambes qu'elle veut que je peigne en bleu. Ingrid, elle, est allongée sur un matelas au sol et nous regarde. Tout se passe bien, la conversation est drôle et légère. Puis, au bout d'un moment, Gigre gesticule, un peu trop, à cause de la peinture qui l'irrite, et commence à tâcher mon canapé. Et moi, je me trompe, je la lave au lieu de la peindre, surtout les pieds, humides et tièdes, à cause de l'eau. Ingrid entrecoupe la discussion de gémissements. La scène, je crois, l'excite, et je fais comme si de rien n'était. Le canapé est de plus en plus taché et le souffle entrecoupé d'Ingrid de plus en plus présent.
J'articule sur la table des petites pierres avec des élastiques. Je les nomme nature et pour chaque femme que je vois passer portant un sac, ce sac fait partie de son corps aussi vivant qu'un ventre. Je formule de grands masques organes avec du plastique, des sacs d'oignons avec des pierres. Quand on met les masques, on perçoit un grand espace abyssal, et le fait de les toucher est une reconnaissance du corps. J'ai perdu mon identité et je suis diluée dans le collectif. Je me vois à travers toutes les personnes indépendamment de leur sexe et de leur âge. J'essaie de reconstruire l'architecture de mon visage, m'appropriant les physionomies que je vois. Je suis l'autre. Je me sens tellement élastique et malléable que je m'adapte à toutes sortes de contacts. Je vis toutes sortes de situations secrètes et imaginaires. Le pénis se loge entre les jambes dans une chambre inconnue, partenaire d'une accolade visualisée sur un couple. Je suis la tête de la femme qui a fait des plis sur la chemise blanche d'un homme solitaire. J'incorpore les stries enceintes que la barque ouvre sur la Seine comme un couteau qui pénètre la chair du corps. Je reconnais la solitude de la pute comme l'étrangère dans la perception de l'homme qui s'en va. L'inconscient pointe à travers les rêves. Une régression profonde. Je passe à travers des tunnels. Je suis éjectée. Je me vois entourée de fœtus, de seins dont la tête a une forme de serpent qui vomit une substance compacte. Substance éjectée par moi dans des rêves du passé, jusqu'à l'introjecter comme une partie de mon corps. Je sens la nostalgie de la normalité et j'ai peur de la folie. Je contrôle mon inconscient. Je coupe dans la phase critique les rêves de régression. J'induis l'inconscient à lâcher un matériau de croissance. Fragmenté, je vis l'érotisme avec une personne, la sensualité avec une autre, mais encore enfant perverse et libidineuse, en fonction d'un tiers. Je suis possédée. J'appelle le diable, moi qui ai horreur de la magie noire. Je vois ses signes dans des traces laissées par des patins sur le trottoir, dans les fentes sur les murs vieillis, dans les physionomies tannées par la vieillesse. Le temps fragmenté, des moments d'euphorie, des arrêts nihilistes. Je suis un être à part dans le monde, caché par mon corps, paralysé, en attente de trouver la façon de donner continuité au concept du moment, du précaire, rattachant les pauses, sachant que chaque jour est un jour, mais que la somme en réalité fait deux, et qu'un mois a 30 jours qui se multiplient dans le temps de notre vie. Après avoir regardé un livre de photos porno, je m'aperçois que mes travaux et concepts sont bien plus érotiques que ce livre. Être touché par un ami portant sur la tête un masque sensoriel a provoqué chez moi un choc profond, comme s'il avait profané mon travail, que je vis comme sacré. Dans un second temps, c'est moi-même qui ai proposé ce rapprochement. Je commence à demander aux gens de se toucher sans peur et de vivre cette expérience érotique à travers un objet intermédiaire. La perception de la charge érotique dans les sacs remplis de pierre, dans les masques organes phalliques, des muqueuses du sexe dans le contact d'un sac rempli d'air, de la pénétration lors de l'expulsion de la pierre mise dans ce sac, du sein pressé par la main, de l'entrelacement des corps en train de copuler pendant la traversée du tunnel, de la dispute entre mâle et femelle par-dessus par-dessous, de la passivité de la femelle couchée et de l'homme sur elle, de la caresse à deux à travers le dialogue, le contact des pierres suspendues sur le dos de l'homme qui soutenait le tunnel de la naissance, des testicules, de l'haleine fraîche ou fétide du partenaire dans les propositions gestuelles, face à face, port à port, sueur, la promiscuité des corps ludiques qui se dégoûtent, s'entrelacent, s'agressent ou esquissent l'acte de la reproduction de l'espèce, l'unification du profane et du sacré. Donc il y a eu, juste après ta présentation, Antonio, le tout début du film « Saute ma ville » de Chantal Akerman de 1968.
Moi, j'ai lu, donc c'est Céline, j'ai lu 4 textes que j'ai rêvés.
J'ai lu dans la cuisine un extrait du livre « Je mange un œuf » de Nicolas Page.
Ensuite, on a écouté donc Delia Derbyshire et Barry Dermange, Falling, de la série radiophonique The Dreams.
Après un extrait de l'édition Jaune vers Citron, publiée avec Florent Dégé aux éditions Passage.
Ah oui, j'ai oublié que juste après Delia et Barry, The Dreams, j'avais lu un texte, mais je l'ai dit ça, je crois, de l'acte de Ligia Clark, voilà.
Ensuite, j'ai lu Continuité des parcs, une nouvelle de Julio Cortázar.
Anne-Lou, tu as lu un extrait de Un bureau à soi.
Oui, Un bureau à soi, ça c'est un texte que j'ai écrit en décembre de l'année dernière, effectivement. Et dans lequel je cite, en tout cas dans l'extrait que j'ai lu, le texte « L'architecte et la femme au foyer » de Francis Stark, édité il n'y a pas si longtemps par les amis de Même pas l'hiver.
Dans la salle de bain, j'ai lu un autre texte que j'ai rêvé, le troisième. Et on a diffusé un extrait de Céline et Julie vont en bateau. Ensuite, Marcel a lu un extrait de Bing, de Samuel Beckett, publié en 1966.
Après quoi, il y a eu un extrait de... Pas un extrait, mais c'est la voix de Chantal Akerman. Alors, c'est... J'ai lu, en fait, non pas un texte qu'elle a écrit, mais un texte qu'elle a dit, de 1972, qui s'intitule « La chambre ». Après quoi, on a entendu ce morceau de Laurie Anderson, « Walking and Falling ».
Et dans la chambre, j'ai lu donc le quatrième texte que j'ai rêvé.
Et ensuite, Sarah a lu un de...
Toujours un extrait de « Jaune vers citron ».
Et puis moi, j'ai lu un de mes textes qui s'appelle « Le corps imaginal ».
Après, on a eu un fou rire.
On a eu un fou rire. Enfin, vous avez eu un fou rire. Et Anne-Lou.
Et j'ai lu donc... ah oui. Oui, Sarah, ouais, t'as lu aussi.
Un rêve érotique de Sarah pendant le fou rire.
Puis un dernier texte donc, de Ligia Clark sur la charge érotique de ces objets relationnels. Voilà, et on tient à remercier
Antonio et
Antonio
toute l'équipe
Contador,
de Du.
Et Marcel,
merci
pour ton hospitalité.
Radio Montmartre.